Parlons un peu de la COVID. Il y a plusieurs nouvelles qui nous intéressent aujourd'hui. Il sera bien sûr question du fameux vaccin dont on dit là, qu'il pourrait arriver sous peu et qui serait donc à 90 % efficace. C'est quand même une nouvelle importante qui a beaucoup fait réagir les réseaux sociaux et surtout la bourse. Surtout la bourse. Là, nous, on vient d'apprendre à l'instant que Québec, s'il rapportait 1397 nouveaux cas de citoyens infectés hier, ben là, on date d'aujourd'hui, c'est 1169, donc un peu moins, mais toujours nettement au-dessus de la barre des 1000 nouvelles infections par jour. On remarque également une hausse des hospitalisations en date d'aujourd'hui. Là, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont écrit, un peu comme Paul Arcand vous le disait, lui aussi en reçoit allègrement là, des témoignages d'auditeurs, comme Stéphane là, qui m'écrivait ce matin. Là, la marmite va exploser, je le cite. En fin de semaine, je devais me déplacer en Estrie pour le travail, notamment à Bromont et Granby. Donc, essentiel, voyage. Tout en respectant les consignes qui me sont imposées à Montréal, j'ai été estomaquée, me dit Stéphane, de voir le comportement des gens. Beau temps oblige, les terrasses étaient pleines. On repassera pour la distanciation, dit-il. Terrain de golf plein. Fallait voir la quantité de gens autour du green de pratique. Sûrement qu'ils étaient tous de la même famille. Ça, c'est ce que... Évidemment, Stéphane fait des commentaires cyniques ici. Bref, c'est un long laïus pour me dire qu'ensuite, c'est allé à Granby, même constat. Et là, il dit la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'en revenant sur la 112 à la hauteur de Chambly, il y avait un skatepark qui était plein à craquer. Il y avait à peu près 150 jeunes qui étaient là puis qui s'amusaient. Il dit sincèrement, le comportement de certains Québécois me lève le cœur. Va falloir faire quelque chose parce qu'on n'en peut plus de ce comportement irresponsable de la part de trop de monde. C'est un peu la question vers laquelle je vous enligne pour la prochaine heure. Avez-vous l'impression qu'il y a beaucoup trop de laissés-aller? Je viens de vous dire, là, aujourd'hui, là, en date d'il y a quelques minutes, 1169 cas qui viennent d'être confirmés. C'est quand même beaucoup de monde encore. Là. Fait que là, on sent, s'il y avait un plateau là, depuis une couple de semaines, avez-vous l'impression qu'on est en train de repartir de plus belle parce qu'il y a un relâchement du monde? Dès qu'on dit « ça va bien aller, on est correct, ça s'en vient bien », oups, là, les gens pensent que tu peux revenir à la normale. Non, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Parlez-en au maire de Saint-Sauveur, Jacques Gariépy est avec nous, parce qu'à Saint-Sauveur aussi, ça y allait avec le beau temps, Monsieur Gariépy, bonjour.
Bonjour, Madame Marichand.
Êtes-vous découragé des visiteurs?
Ben, écoutez, découragé, c'est inconcevable que les zones rouges se déplacent abondamment puis librement partout où ils veulent, hein, parce que c'est pas le message qui avait été donné au début, puis c'est pas le mot d'ordre qui avait été donné au début par le premier ministre et par Santé Québec également, parce que le message était que les restrictions qui étaient imposées aux zones rouges les suivaient partout dans leurs déplacements. Ça veut dire qu'aux zones rouges, ils peuvent pas aller manger dans un restaurant parce qu'ils sont fermés. S'ils se déplacent dans les zones oranges, ils n'ont pas affaire d'un restaurant. Mais ça, c'est bien beau le dire, mais faut que ça suive aussi.
Vous êtes envahi, M. Guerrier.
On est envahi depuis, surtout le beau temps. Il faisait 20 en fin de semaine avec un beau soleil. C'est sûr qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde et puis je me suis promené sur la rue principale, j'étais présent et je peux vous dire que nos citoyens sont chez eux puis les touristes, ils sont sur la rue principale parce qu'ils sont inquiets, hein? S'inquiètent nos citoyens grandement. Puis pas juste nos citoyens, ça inquiète les commerçants. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas contents d'avoir du monde, mais ils savent que c'est des zones rouges, puis ils ont aucun contrôle. Ils peuvent le demander, puis ils peuvent demander des registres, mais tant qu'il n'y a pas une surveillance accrue, autant de la Sûreté du Québec que par des barrages, il y a beaucoup de solutions qu'on pourrait apporter, mais présentement, il n'y a rien qui est appliqué. Les zones rouges, ils se promènent librement.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Jacques Gariépy? Puis vous avez demandé qu'il y ait des barrages routiers à la Sûreté du Québec?
Je le demande. En fait, la Sûreté du Québec n'ont pas d'ordre de recevoir des maires. Hein.
Non, on comprend bien, mais...
Quand même, je leur demanderais, ils ne m'écouteront pas. Puis il faut que les ordres viennent...
La
sécurité publique, du premier ministre, de Santé Québec. Faut que ça émane de ces instances-là. Puis les ordres n'émanent pas actuellement.
Donc, vous avez demandé des barrages, mais vous n'en avez pas vu.
Ça fait longtemps, à travers les médias, puis je constamment, toutes les semaines ou deux semaines, je fais des demandes, je fais des capsules. Ces capsules-là sont envoyées partout. Et la demande est claire, puis je demande, mettez des barrages ou, à tout le moins, envoyez des agents de la Sûreté du Québec surveiller les restaurants, puis si c'est pas des... Si ils sont, ils se retrouvent dans des restaurants, mais qui payent puis qui s'en aillent, tu sais, puis écoutez, ça me fait mal au cœur à toutes les fois, je le dis, mais de grâce, je demande aux zones rouges, abstenez-vous de venir actuellement, c'est la contamination, ça se fait comme ça. Puis les gens viennent, puis même si ils font attention, puis même s'ils sont respectueux, puis essayent, ça se fait, c'est ça, la contamination communautaire, ça fait comme ça.
Ouais, Jacques Garriépy, vous dites, on a demandé des barrages, mais il faut que ça vienne du gouvernement, il faut que ça vienne de François Legault. Geneviève Guilbeault a dit que c'était bien important pour elle, la ministre de la Sécurité publique. Avez-vous l'impression que c'est... qu'ils font pas ce qu'ils disent qu'ils font, finalement, que vous êtes un peu laissé à vous-même? Avez-vous cette impression-là?
Oui. Oui. Honnêtement, oui. Parce que on fait pas juste des demandes à travers les médias, à travers les journaux. On l'a fait par résolution. Il y a eu une résolution qui a été adoptée, qui a été envoyée au premier ministre, à Mme Guilbeault, à notre ministre, Mme Blais, à toutes les autorités et les instances. Puis cette résolution-là demandait une plus grande surveillance, puis une plus grande avoir des pouvoirs restrictifs pour empêcher des gens de venir ici, ou s'ils ne pouvaient pas mettre des barrages, parce que des barrages, il y a tout le temps des infiltrations de barrages un petit peu partout, puis les gens le savent, puis ils connaissent les petits chemins, mais qu'ils mettent des agents de la Sûreté du Québec qui peuvent mettre des contraventions aux gens qui suivent pas.
Je vous ai jamais... On s'est parlé souvent, hein, M. Garriépy, au fil des dernières semaines et des derniers mois. C'est la première fois que je vous sens à ce point, à la fois fâché, déçu, puis et stressé par ce qui se passe chez vous.
Ben oui, parce que la pression monte tout le temps. Et puis moi, je me fais interpeller par notre population, puis je dis, Monsieur le maire, prenez des mesures, faites des mesures, mettez des barrages. On peut pas mettre des barrages, on peut pas intervenir autant qu'on voudrait. Donc, ceux qui peuvent intervenir, ben, je leur demande d'intervenir. Puis ceux qui peuvent intervenir, ben, c'est le premier ministre de par ses interventions.
Mais vous l'avez déjà demandé, puis il n'y a rien qui a été fait.
Effectivement. On l'a demandé à plusieurs reprises. On l'a demandé par des voies officielles, puis on l'a demandé, également par la MRC, notre MRC qui a juste 20 cas actuellement actifs. Nous autres à Saint-Sauveur, avec tout le monde qui est ici, on a entre 1 et 4 cas. Puis entre 1 et 4 cas, ça veut dire 2-3 cas là, actifs. Puis il y en a du monde, là, puis la contamination communautaire est facile. C'est comme ça que ça, les nombres de cas augmentent. Et puis,
mais vous, est-ce que vous craignez que la saison de ski, sinon, soit... Parce que là, c'est sûr, là, vous voulez pas le monde de la zone rouge, mais en même temps, votre coin, comme l'Estrie, vous êtes, pour vous, le tourisme des skieurs, c'est important aussi. Donc, pour la saison de ski, qu'est-ce que vous dites aux gens des zones rouges, venez pas?
Ben, écoutez, là, ils peuvent venir. Ils peuvent venir, puis si on dit aux gens des zones rouges de ne pas venir faire du ski, mais eux, ils prennent des mesures. Hein, c'est très, très restrictif. Là. Mm-hmm. Ici, au Mont-Saint-Sauveur, là, c'est très restrictif. Ils prennent des mesures sévères. Il n'y a personne qui rentre des chalets. Ceux qui mettent leurs bottes de ski, qui les mettent dans leur auto, où ils vont avoir des abris contrôlés. Puis ils font leur job, eux. Mais c'est la masse de monde qui viennent se promener dans Saint-Sauveur. Ouais. Et puis, je dis Saint-Sauveur, c'est Saint-Adèle aussi. Là. Je parlais à la mairesse de Saint-Adèle ce matin, puis elle me disait la même chose, qui était inondée également. Donc, on est laissé, vous demandez si on est laissé à nous-mêmes, la réponse est oui.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Bien là, présentement, une chance, nous autres, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Hein? Puis ce qu'on peut contrôler, c'est de la prévention. On fait de la prévention, on embauche à semaine longue, là, puis surtout les fins de semaine, des agents de sécurité. Ces agents de sécurité-là ont hâte de maintenir la distance, essayer de faire maintenir la distanciation, mais plus qu'une montre, plus c'est difficile, mais ils le font quand même. Ils demandent, lorsque la distanciation est moins possible, ils leur demandent de mettre le masque. Mm-hmm. Ça, on peut le contrôler, puis on le contrôle, puis on le fait, puis c'est apprécié. Nos commerçants sont d'accord avec ce qu'on fait, puis ça les sécurise jusqu'à un certain point.
D'accord.
Mais il faudrait qu'il y ait de l'aide, d'ailleurs.
Merci beaucoup. Jacques Gariépy, maire de Saint-Sauveur. Vous entendez bien son désarroi par rapport à la horde de touristes non distanciés qui, une fin de semaine de plus, sont allés à Saint-Sauveur ou dans les Laurentides. Sainte-Adèle, même combat. On pourrait dire l'Estrie également. Puis vous avez vu là, cette histoire là, de ce rassemblement de voitures modifiées. Il y a un piéton qui a été happé à mort, en plus. Écoutez, moi, sincèrement... Je ne sais plus quoi dire aux gens là, qui ne comprennent pas ou qui font comme si de rien n'était. On va aller à la pause là-dessus. Bien sûr, vos commentaires, 514-790-9850. On a plusieurs spécialistes là, qui vont intervenir tout de suite après ceci. Pas capable d'arrêter, oh ouais, pas capable d'arrêter. La docteure Nima Machouf est épidémiologiste. Elle travaille à la clinique du quartier latin. Bonjour, docteur Machouf.
Bonjour Isabelle.
J'aimerais vous entendre sur l'insouciance de ceux qu'on appelle désormais les Covidios.
Ouais, le nom est bien choisi. C'est vraiment frustrant. Après tant de sacrifices que toute la société a fait, ça fait 10 mois qu'on est en prise avec ce problème-là, qu'on essaye collectivement à régler le problème. On est en pleine deuxième vague et les gens semble ne pas trop se soucier de ça. C'est très, très frustrant. On a eu énormément de sacrifices du personnel de santé, énormément de pertes dans notre société, à peu près 6500 décès là, qu'on a vécu avec la COVID. On essaye à bout de bras garder les écoles ouvertes. Puis il y a des gens qui font comme si de rien n'était. C'est inacceptable.
Avec une augmentation des cas positifs, hier, 1397 cas au Québec. C'est loin d'être une bonne nouvelle. Moi, quand j'ai vu ça hier, là, je me suis dit, donc là, si on avait un plateau depuis une couple de semaines, est-ce qu'on peut en conclure que... Parce que là, aujourd'hui, je voulais voir si c'était un isolé, ça peut arriver, là, un chiffre là, qui veut rien dire. Mais là, ça fait une autre journée à 1169 cas donc confirmés de Québécois qui testent positif à la COVID aujourd'hui. On est nettement au-dessus des 1100 cas. Qu'est-ce que vous comprenez de ça, docteur Machouf? Est-ce que c'est reparti pour de bon?
Ouais. C'est, on peut jamais commenter un chiffre à la fois, voilà. Une journée à la fois. Mm-hmm. Mais chose certaine, c'est que ça fait un peu trop longtemps qu'on est en haut de 1000 cas par jour. Mm-hmm. Et ça, c'est déjà inquiétant. Si on regarde la composition, un peu la disparité des cas dans la province, on voit qu'il y a beaucoup de zones qui n'étaient pas infectées durant la première vague, qui ont été épargnés durant la première vague, qui sont maintenant touchés. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne prennent pas les mesures au sérieux? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ne font pas correctement? Et souvent, durant la première vague, on s'est dit que si deuxième vague il y a, elle va nous surprendre là où on s'y attend le moins. Alors, les zones qui étaient les moins préparées. Montréal, maintenant, on fait beaucoup plus attention à l'extérieur. Il faut qu'ils serrent les mesures, il faut que ça soit, il y ait plus de vigilance à l'intérieur des centres des CHSLD qui sont infectés. C'est inadmissible. On a, à la première vague, on pouvait le pardonner, on savait pas comment faire, on n'avait pas les moyens, l'équipement, le personnel, tout ça. La deuxième vague, on n'avait aucune excuse.
Vous dites que vous avez entendu qu'il y a 125 cas dans un CHSLD, vous dites que c'est ça, c'est inacceptable.
Inacceptable.
Ouais. Les écoles?
Inacceptable.
Est-ce que là, on a beaucoup parlé depuis les derniers jours de la transmission dans les écoles, puis on explique aussi que j'avais le docteur Janvier la semaine dernière qui disait c'est clair que il y a des travailleurs de la santé qui ont des enfants qui travaillent en CHSLD ou en hôpitaux et qui transmettent parce qu'il y a beaucoup de symptomatiques. Donc c'est comme cette espèce de j'allais dire de balai entre l'un et l'autre endroit, ça contribue à la transmission communautaire.
Oui. Les écoles le gouvernement essaie à tout prix de les garder ouverts. C'est un moindre mal. Et les cas qu'on voit dans les écoles, il y a beaucoup de classes qui sont fermées. Ben, on dit beaucoup, c'est quand même en termes de relativement, c'est peu de classes. Mais il y a quand même beaucoup d'écoles qui sont infectées et tout. Mais la transmission ne se fait pas nécessairement à l'intérieur de l'établissement scolaire. Mmh. Souvent, c'est des gens qui sont infectés ailleurs, qui vont à l'école. Donc, pour l'instant, l'école, le principal souci qu'on doit avoir, c'est l'aération.
Ouais.
Parce que les jeunes restent en classe, ils sont plusieurs en classe et pendant de nombreuses heures. Donc, si on veut éviter la transmission à l'intérieur d'une école ou d'une classe, il faut vraiment s'assurer qu'il y a une bonne circulation d'air.
Voilà, je vais en parler tout à l'heure avec un invité, justement, très rapidement sur le vaccin de Pfizer qui serait efficace à plus de 90 %. Docteur Machaud, votre réaction?
Une très bonne nouvelle. Si ça s'avère, parce qu'on n'a pas encore, ils n'ont pas encore sorti les chiffres, ça c'est juste la compagnie qui pour l'instant le dit, ils n'ont pas encore sorti les chiffres pour que la communauté scientifique aussi fasse une évaluation, mais pour juste ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est quand même un vaccin qui est pas le plus facile parce qu'il nécessite deux doses.
Ouais, deux doses.
Donc deux doses, c'est beaucoup plus de c'est deux fois plus de complications au niveau de la campagne de vaccination.
Qui serait administré comment, docteur Machouf?
Ça veut dire quoi, comment?
Ben, de quelle façon on les donnerait, ces doses? Est-ce que ça serait par le nez? Est-ce que ça serait comme...
Je ne sais pas.
On n'a pas ces informations-là, forcément.
Mais en fait, moi, je ne les ai pas, d'accord, je les ai pas vues.
C'est très préliminaire, donc, ce que vous nous dites, là,
oui,
en termes de...
Alors,
ce, ouais.
Pour l'instant, ce qui est très encourageant, c'est que il y a au-delà de 40 000 personnes qui ont reçu un vaccin, qui ont reçu deux doses d'un vaccin, et que les personnes vaccinées avaient très, très peu de cas de contamination à la COVID, d'infection à la COVID, et les personnes non vaccinées, qui étaient des contrôles, ont eu beaucoup plus de contamination. Ils disent que c'était efficace à 90 %, c'est quand même un très bon chiffre.
C'est énorme.
C'est un très bon chiffre.
Ouais.
Donc, si en plus ça donne
une protection, si ça
donne une immunité à long terme, ben ça va être fantastique.
Voilà.
C'est une très très bonne nouvelle.
Faut pas s'énerver trop, faut quand même prendre les choses.
Non, mais c'est quand même une très très bonne nouvelle. Voilà. Ça donne de l'espoir.
On en a besoin.
C'est pas la seule compagnie non plus.
Oui.
Il y a d'autres vaccins aussi qui sont en cours d'essai. On espère que la plupart vont pouvoir sortir des résultats le plus tôt possible et espérons-le avoir des campagnes de vaccination en 2021.
Oui, après ça, il va falloir convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Ça, c'est une autre paire de manches, mais on aura le temps d'en parler. Merci.
Oui. Je pense qu'il y en aura assez qui vont pouvoir.
Vous allez voir, il y aura des réfractaires. On les connaît. Merci, docteur Nima Machouf. Merci bien. Épidémiologiste, je vais passer la parole au docteur Gaston Desserre, qui est médecin à l'Institut national de santé publique. Il est prof en épidémiologie à l'Université Laval. Bonjour, docteur Desserre.
Bonjour, madame.
Je veux vous entendre, vous aussi, sur, je disais tout à l'heure, l'insouciance de ceux qu'on appelle les COVIDios. Il y a beaucoup d'exemples encore. On vient d'entendre le maire de Saint-Sauveur, qui ne sait plus comment le dire, là, qui était vraiment en grand désarroi, là, qui lance un cri du cœur, qui a l'impression de ne pas être écouté par le gouvernement, à qui il demande à nouveau une intervention pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de monde qui vienne des zones rouges se coller sur sa rue principale. Vous comprenez quoi de l'attitude des gens, docteur Desserre?
Mon Dieu. Ben, en fait, c'est parce que, évidemment, il y a les deux bouts de la lorgnette. On peut voir les cas qui sont, en fait, les situations où il y a vraiment des comportements là qui sont, je dirais, là, très dangereux, là, dans le fond, qui peuvent facilement permettre à l'infection de se transmettre. Je pense que, malgré tout, dans la grande majorité des cas, les gens respectent bien les choses, mais effectivement, il y a des situations où on a des problèmes. Ceci étant dit, quand on regarde où est-ce que se situe la transmission actuellement, on a donc une certaine transmission dans les écoles. On a une certaine transmission dans les milieux scolaires. On a de la transmission aussi dans les milieux de soins. Puis on a d'autres situations où on a de la transmission qui est un peu dans des situations comme celles que vous décrivez. Mm-hmm. Donc, je pense que il y a plusieurs endroits où il faut travailler je pense que ces exemples-là de comportements qui, évidemment, sont à l'opposé de ce qui est recommandé, il faut que ça arrête, là, mais en même temps, je dirais, il reste beaucoup de transmission qui se produit donc dans le milieu de travail. Et là, est-ce qu'au niveau du milieu de travail, les gens prennent les mesures pour rester à distance les uns des autres, à porter les couvre-visages, à minimiser idéalement là, la présence sur place? Il y a, depuis le début de la pandémie, un message pour dire plus les gens vont pouvoir faire du télétravail, moins ils vont s'exposer. Donc, c'est quand c'est possible, c'est pas toujours possible. Mais donc, toutes ces choses-là doivent aussi s'améliorer pour réduire le plus possible la capacité du virus de se transmettre.
Mmh. Fait que là, êtes-vous en train de me dire que oui, c'est vrai que les exemples comme ces rassemblements illégaux là, de voitures modifiées ou ceux qui avaient l'intention de faire un party là, dans un garage puis que la police a cassé leur party, tout ça, ce sont des exemples, mais c'est pas et ça nous fait sauter puis ça nous fâche. En tout cas, quand je dis nous, ceux qui respectent les règles, je dirais que c'est une majorité peut-être, c'est pas scientifique, mais c'est toujours le 80-20. C'est toujours ça un peu, là, qu'on dit, il y a toujours 80% de gens qui écoutent puis 20% de gens qui écoutent moins. Est-ce que donc vous dites, c'est pas forcément, c'est peut-être visible, mais c'est pas là où il y a le plus de transmission?
Ben, je vous dirais, ces exemples-là peuvent de temps en temps conduire à de la transmission, mais ce qui, moi, me préoccupe actuellement, c'est de voir justement les transmissions qui se produisent dans des contextes qui sont pas ceux-là. Mm-hmm.
Le pire endroit, d'après vous, c'est où, docteur Dessin? C'est à l'école,
le pire endroit, je sais pas.
Le pire milieu, là, c'est-tu l'hôpital, c'est-tu l'école, est-ce que c'est le travail, d'après vous, là?
Ben, je pense que encore une fois, quand on parle du travail, c'est compliqué de dire le travail.
Sur le chantier de construction,
c'est les milieux de travail qui sont très différents. Ouais. C'est clair que, par exemple, les abattoirs ont été depuis le début de la pandémie un type de travail un type d'endroit où la transmission de la maladie est très facile.
Ben voyez-vous là-dessus, si je peux me permettre, il y a quelqu'un qui m'a écrit la semaine dernière qui était directement touché là par ce qui s'est passé chez Olimel, puisqu'on y fait référence, puis qui disait on a été ouvert tout l'été, pas de problème, pas de cas, pas d'infection. Les écoles reprennent, on a eu des cas. Donc, pour cette personne-là, qui travaillait chez Olimel, c'était clair que c'était la rentrée scolaire qui était la grande responsable. Vous en pensez quoi?
Bien, je pense que il y a deux choses qui doivent être... En fait, on est dans une communauté, puis il y a des interactions entre les différents sites, si je peux dire. Les écoles ont été touchées beaucoup parce que la transmission dans la communauté a été forte. Évidemment, quand il commence à se transmettre de la COVID dans les écoles, ben ça se reflète par la suite dans la communauté. Et de la même façon, les abattoirs, les endroits où il y a eu des transmissions, ça a été souvent dans les communautés où il y avait beaucoup de transmissions. Puis là, ça rentre dans l'abattoir. Évidemment, il y a plein de travailleurs qui deviennent malades, qui contaminent leur famille, qui recontaminent. Alors, c'est un genre de boucle et on voit la même chose pour les RPA. Quand il y a, cet été, on a eu des semaines où on avait 50 cas par jour qui étaient déclarés. Et évidemment, le risque à ce moment-là d'une introduction dans une résidence privée pour aînés est beaucoup plus faible que dans la situation actuelle où on est à 1100 cas par jour. Mm. Alors, c'est que tout ça, c'est un environnement où chaque site de transmission alimente le suivant qui fait une rétroaction vers le premier site. Donc, d'accuser les écoles d'être à l'origine de ce qui s'est produit dans les abattoirs, je pense que c'est un peu court, malheureusement. Et encore une fois, l'augmentation qu'on a vue à la fin de l'été s'est produite avant l'ouverture de l'école. Alors, c'est sûr qu'avec les écoles qui sont ouvertes, là, il y a eu au début, beaucoup d'écoles où il y a eu des cas acquis dans les communautés, dans la communauté, qui sont arrivés à l'école. Là, on a mis les jeunes on leur a dit de rester chez eux en quarantaine, etc. Puis il y a eu quelques écoles où là, la transmission a commencé dans l'école. Puis quand on dit dans l'école, ça peut être dans l'école ou ça peut être, j'allais dire, là, qu'on retrouve nos amis, puis là, ben, on passe du temps avec eux.
Mais
autres.
Parce qu'on sait très bien que, hors de la bulle classe, il y a le service de garde, puis le service de garde, c'est toute bulle mélangée, là.
En fait, ça, je pense que ça varie un peu d'une école à l'autre.
Oui, justement, mais, ça varie un peu
tout
trop.
Tout ça pour dire que c'est un peu risqué là, de mettre de l'avant des solutions simplistes, là, de dire, bon, ben, c'est l'école qui fait que nous autres, on est infectés. Là. Okay. Ça, je pense que c'est pas
réaliste. L'Halloween, quelqu'un, je trouve ça intéressant. J'ai Marc là, qui dit, est-ce qu'on peut faire le lien avec l'augmentation des cas des derniers jours, avec le fait qu'on a passé l'Halloween? C'est vrai, quand on regarde ça, le 31 octobre, on est comme 9-10 jours plus tard, 9 jours plus tard.
Je vous dirais, encore une fois, là, si on regarde les milieux où est-ce qu'on voit de la transmission, il y en a eu dans les écoles, mais dans les écoles, il y a eu plus de transmission au niveau du secondaire que de l'élémentaire. Mm-hmm. Les élèves, les étudiants du secondaire, il y en a quelques-uns qui passent Halloween, mais c'est surtout à l'élémentaire là, où on retrouve les enfants qui vont à l'Halloween. Les milieux de travail, que je sache, ça passe pas tellement à l'Halloween. Évidemment, ça peut être des parents d'enfants qui travaillent puis qui ont été infectés par leurs enfants. Mais non, moi, je crois pas qu'à ce qu'on a pu voir là, dans les derniers jours soit attribuable à l'Halloween. Il y a toujours un délai là entre un événement qui commence une transmission et, je dirais, là, sa détection par nos tests et nos mesures là, d'identification, de surveillance. Là.
Merci beaucoup, Dr. Garton-Dessert, de prendre le temps de nous parler. Dr. Dessert est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. On s'arrête ici. Très courte pause. Vos commentaires, si vous le souhaitez, nous parler au 514-790-9850 de l'extérieur, partout au Québec, zone orange ou rouge. Y a-t-il encore du monde en zone verte quelque part? Oups, pas l'air. On fait le 1-866-790-9850 8-5-0. À tout de suite, tout le monde. Alors, je vous rappelle qu'il y a une hausse des cas encore aujourd'hui. En fait, par rapport à hier, 1397, c'est moins, mais c'est plus que la semaine dernière. Ça se situe toujours au-delà des 1100 cas. On est à 1169 cas aujourd'hui, là, annoncé il y a à peu près une demi-heure par la santé publique. Donc, ça inquiète mes invités, vous l'avez bien entendu. Il y a Aline qui me dit qu'elle a téléphoné à un resto pour réserver dans les Laurentides. Ils lui ont dit « Si vous venez de la zone rouge, on ne vous sert pas ». Alors ça fait partie des mesures, effectivement, qui pourraient freiner les élans touristiques de gens qui viennent d'une autre région. On a Vincent qui est avec nous. Bonjour Vincent, comment vous expliquez le fait que certaines personnes ne semblent pas comprendre l'importance de respecter les mesures?
Ben, bonjour Isabelle. C'est ça. Il y a une auditrice qui a répondu à ce que je voulais vous dire par rapport au maire de Saint-Sauveur.
Oui.
Les restaurants ont juste à demander des cartes là, avec les adresses, mais mm-hmm. Ça, je pense pas que ça va arriver parce qu'il y a personne qui veut fermer ses commerces. Ils doivent vivre, tu sais. Ouais. Moi, je me dis là que quand ça a commencé, cette histoire-là, que tout le monde avait peur, tout le monde, c'est là que ça aurait dû être confiné totalement pour vraiment libérer tout. Là, plus que ça va, avec tous les retours en arrière que le gouvernement a fait des fois sur des propositions qu'ils ont faites, puis là, oups, ça marche plus finalement, c'est comme ça. Mais je trouve que le monde, il croit de moins en moins. Puis j'ai l'impression que le monde commence à vraiment en avoir assez. Même dans le 80%, il y a du monde qui se pose des questions. Mm. Puis c'est quoi qui fait la différence que dans un bar, c'est plus dangereux que dans une station de métro à 4 heures l'après-midi où est-ce que l'heure de pointe, puis que des fois, il y a du monde qui voyage 30 minutes, qui sont collés. Tu sais, je veux dire, moi, ma femme travaille dans un bar parce qu'elle était le masque et la visière tout le temps exigée par son patron. Un banc de distance, le nettoyage tout le temps.
Les clients, par exemple, eux, c'est ça, là, c'est la difficulté de contrôler le monde.
Ben, il y a plus de musiciens. Moi, je suis musicien. Fait que depuis le mois de mars, il y a plus la même ambiance d'un bar. Donc, des fois, le monde va là juste par solitude pour parler. Des fois, ma femme n'est pas juste barmaid, elle est psychologue, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est quoi qui justifie ça? Moi, c'est juste ça que je me demande. Puis j'ai l'impression que le peuple commence à en avoir assez.
Ouais.
Plus que ça va aller, puis plus qu'ils vont moins y croire. Et c'est ça mon point de vue.
Ouais, on devient finalement imperméable à tout ce qui se dit, là. Merci, Vincent. Je comprends bien votre raisonnement. Yannick, bonjour. Votre opinion là-dessus?
Bonjour, Mme Maréchal. Moi, dans le fond, je vais deux fois par semaine au Nouveau-Brunswick parce que je suis camionneur.
Ouais.
Puis là-bas, je posais des questions parce que tout était ouvert puis tout. Puis je demandais aux gens, je dis quoi, vous n'avez pas de cas de COVID ici? Fait que le vieux monsieur, il m'expliquait quelque chose. J'ai trouvé ça assez logique. Il dit, nous, on fait le contraire du Québec, parce qu'il dit, vous, au Québec, vous fermez tout en zone rouge, fait qu'il dit, les gens, ils se trouvent à se déplacer dans les autres zones. Il dit, ça revient aux mêmes choses qu'on va ramener ça aux animaux. Il dit, enlever dans une zone toute la nourriture que les animaux y ont, le troupeau va faire quoi? Il va se déplacer.
Mm-hmm.
Fait qu'il dit, nous, on a décidé de faire le contraire. Il dit, nous, on laisse les restaurants, les gyms, les choses sportives ouvertes partout. Fait qu'il dit, au moins, la zone rouge reste dans leur zone rouge, puis il dit la zone orange reste dans leur zone orange. Fait qu'il dit, comme ça, on empêche la contagion. Il dit, fait que c'est pour ça que nous, au Nouveau-Brunswick, il dit, on est en train de s'en sortir haut la main, parce qu'il dit, les zones rouges, ils se déplacent pas. Ils ont déjà tous les services qu'il y avait avant dans leur ville. Fait qu'ils restent chez eux. Fait qu'il dit, vous, au Québec, vous fermez tout partout. Fait qu'il dit, les gens, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Ils se déplacent. Fait qu'ils se déplacent. Fait qu'ils disent, en se déplaçant, ben, il dit, vous déplacez la contagion, fait que vous êtes en train de polluer le Québec au complet. Avec
mais il n'y a pas moyen de rester tranquille un petit peu encore. Je sais que tout le monde est tanné, puis je partage.
Juste, Mme Maréchal a ouvert les restaurants dans les zones rouges, les bars, puis on va arrêter de contaminer les zones oranges. À la long terme, la zone rouge va finir par baisser elle-même, puisque les gens vont rester dans leur zone.
Oui, je comprends, là, ça se tient. Ça se tient tout à fait.
Que nous, on a... C'est la même chose que des animaux dans le bois. Enlever toute la nourriture, mettons, sur les animaux de Louisville, ils vont s'en aller à Trois-Rivières.
Merci, Yannick. Justement, j'ai Marc Hamilton, qui est microbiologiste, qui est avec nous. Bonjour, Marc. Bon, je vais vous lancer. C'est intéressant là, ce que Yannick dit, là, qui s'est fait expliquer là, par un camionneur du Nouveau-Brunswick, qui disait, ben nous, on fait le contraire du Québec. Au lieu de fermer, on permet aux zones de bouger à l'intérieur de la zone. Est-ce que ça serait viable, ça, comme solution?
Mais le meilleur exemple que je peux vous donner, comme quoi que c'est pas toujours vrai ce que le monsieur a dit, c'est regarder le Saguenay.
Ouais.
Le Saguenay, on était en zone orange. Il y a un mois passé, il n'y avait quasiment pas de cas positifs. Et là, aujourd'hui, c'est la zone la plus rouge du Québec par capita. De sorte que eux avaient les restaurants étaient ouverts, les bars étaient ouverts, tout était ouvert. Et puis la petite région qui est peu. Bon, il y a peut-être des gens de Québec-Montréal qui y vont, là, mais aller-retour. Aujourd'hui, c'est la zone la plus rouge. Hein. On a plus de 100 cas positifs par jour, puis un taux de positivité des tests de 13 %. Donc, même si on est à l'écart, on n'est pas à risque de développer un outbreak. Là. C'est un exemple que je peux donner en contradiction avec ce que le monsieur vient de dire. Là.
Mm-hmm. Et d'ailleurs, ça fait partie de vos craintes, Marc Hamilton. Là, bon, on était hier à 1400 cas proches, là, 1397 au Québec. Là, ce matin, on nous parle de 1169 nouvelles infections, des gens qui ont testé positif à la COVID. Est-ce que vous pensez que ça va continuer d'augmenter ou ce sont deux journées atypiques là, auxquelles on a droit?
J'espère que c'est deux journées atypiques, mais il reste qu'on n'est pas encore, je crois, au bout de nos peines. Et le problème qu'on voit présentement, c'est qu'autant que les zones qui étaient ciblées les plus chaudes, là, hein, Québec et la capitale nationale et Montréal, il y a un mois passé, puis que c'était les jeunes qui étaient les responsables, aujourd'hui, prenez juste la ville de Québec, autant qu'on avait 200-240 cas par jour, aujourd'hui, on en a moins de 75, donc on a fait nos devoirs. Mais le problème qu'on a, c'est que les régions comme le Saguenay, la Mauricie, l'Anaudière, la Montérégie, ça descend pas, ça continue d'augmenter, qui fait que les régions qui étaient oranges il y a un mois et demi sont rendues rouges et ça augmente tout le temps. Donc, la dispersion du virus est rendue beaucoup plus aux endroits où il y en avait beaucoup moins avant, qui fait que même si on fait des efforts dans un endroit, oups, on déplace le mal de place. Et là, c'est rendu des régions moins à risque qui nous regardaient, qui disaient, bah, écoute, le virus est concentré à Bec-Mémorial, les délinquants sont là. Ben là, c'est plus ça maintenant. La transmission communautaire a amené ça ailleurs. Et quelque chose d'autre qui m'inquiète aussi, c'est que le taux de positivité qui sort à tous les jours. On sait qu'on fait 25 000 tests en moyenne par jour. Il est passé d'environ 1,5 à 3 % il y a un mois et demi passé, à tout près de 5 %. Et là, c'est ce qui m'inquiète, c'est globalement parlant, c'est 5 % des tests qui sortent positifs. Contrairement à la moitié que ça, il n'y a pas si longtemps que ça.
Donc, ça veut dire pour un nombre, juste pour qu'on comprenne bien, pour un nombre équivalent de tests, aujourd'hui, il y a 5 % plus de gens qui sont positifs, c'est ça?
Ben, on est 5 % de tous les gens qui ont été testés qui sortent positifs. Mm-hmm. Comparativement à moins de 3 % il n'y a pas si longtemps que ça. Mm-hmm. Donc, le virus est beaucoup plus communautaire. Prenez juste un exemple, je parlais de Saguenay tantôt. Le Saguenay, il y a un mois et demi passé, c'était moins de 1 % des cas qui étaient positifs.
Ouais.
Pour ce qu'il y avait. Aujourd'hui, on a 13 % des gens qui sont testés, qui sortent positifs. Imaginez, là, c'est grave là-bas, ça va.
Avant, sur 100 personnes, il y avait une personne au Saguenay qui était positive, puis là, aujourd'hui, ça serait 13 personnes sur 100. Hey, c'est énorme. Et comment ça se fait, là, ça, là,
d'après vous? Ben, comme je vous dis.
Ils ont eu de la visite, certains.
Ils ont eu de la visite. Il y a des gens, comme je vous dis.
Moi, j'en connais qui sont allés. Oui.
Laisser aller. Vous savez, ça prend pas grand-chose, hein, partir. On sait, hein, que la COVID-19, ça a parti d'une personne, hein, en Chine, hein, ouais. la personne numéro un, puis bang, regardez combien de millions de personnes qui ont été infectées jusqu'à maintenant. Donc, ça prend une, deux, trois personnes qui s'en vont au Saguenay et qui ne savent pas qu'ils ont, puis fréquentent des gens avec ou sans masque, et boum, c'est parti.
Ouais.
Donc, on n'est pas à risque. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait plus de qui on l'attrape. Et c'est vraiment rendu communautaire. Et ce qui m'inquiète, c'est que le taux de positivité augmente et on s'éparpille au Québec. Et c'est ce qui fait en sorte que les statistiques risquent d'augmenter parce qu'on n'est plus concentré comme avant, juste Québec et Montréal. C'est rendu partout que le virus est présent.
Alors, au lieu de recommander qu'on se tienne tranquille, il faudrait dire aux gens, arrêtez de vous éparpiller.
Ben, effectivement, ça fait partie de la solution. Ça fait partie de la solution, puis de renforcer les bulles.
Voilà, renforcer sa bulle. On va à la pause, on revient et on conclut.
Tout va changer ce soir. On prend un nouveau départ.
Bonjour Dominique, je pense que vous témoignez du fait que vous dites ben les gens ont besoin de bouger. C'est un peu comme ça que vous expliquez le fait qu'il y a encore trop de gens là, qui se déplacent en faisant fi un peu des mesures sanitaires.
Oui, puis à quelque part, je les comprends aussi, là, parce que tu sais, nos gouvernements prennent des décisions là, puis qui sont pas expliquées scientifiquement pourquoi qu'on fait ça, pourquoi qu'on dit on va fermer les bars puis les gyms, mais il y a 100 000 personnes dans le métro, tu sais. C'est dur à comprendre des fois, puis je comprends les gens d'avoir fait ça, tu sais, d'avoir, je veux dire, à quelque part, là, tu sais, j'ai l'impression des fois, quand j'écoute la conférence de presse du premier ministre et du docteur Arruda, d'écouter un ancien épisode du temps d'une paix, là, tu sais, c'est comme, c'est pas expliqué scientifiquement, on est en 2020, là, on peut avoir des explications concrètes, puis nous dire exactement pourquoi vous faites ça.
Ouais, merci.
Puis je trouve aussi que le terme COVIDio, là, il est pas à sa place, là, parce que les gens, ce n'est pas des idiots, ils prennent des décisions. Puis, je pense que ce serait bien expliqué.
Ben, sincèrement, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit 200 chaises, des plantes, des tapis installés dans un sous-sol de garage, moi, je ne trouve pas que c'est très glorieux. D'abord, ça montre que les gens sont conscients qu'ils n'ont pas le droit, mais qu'ils le font quand même. Et c'est là où on peut dire, ben, sincèrement... Je ne trouvais pas que ça mérite le terme COVIDio. En tout cas, certainement
non,
pas ami de la population. Là.
Du tout.
Non? Ça veut dire que les gens ont le droit de...
Non, ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit. Ça veut dire que leurs raisons sont peut-être... Écoute, je ne pense pas que tous les gens qui sont allés en campagne, c'est des idiots. Là. Mm-hmm. Il y a des gens intelligents là-dedans. Il y a des gens qui ont pris des décisions parce qu'ils sont tannés. Puis ils ne savent même pas pourquoi ils sont enfermés. Il faut que les gouvernements expliquent scientifiquement, pourquoi tu prends ces décisions-là?
Ouais, je comprends. Merci de votre témoignage. Merci bien. Nicole, votre opinion là-dessus?
Oui, bonjour Isabelle. Félicitations pour votre émission.
Merci.
Rendez un grand service à plusieurs personnes. Moi, je suis tout à fait solidaire avec M. Garriépy à Saint-Sauveur, car je comprends pas que M. Legault ne puisse pas adhérer à toutes ces demandes.
Ouais.
On sait très bien, hein, Isabelle, on l'avait dit avant, il y a longtemps, là, au début, que c'était la quand il y aurait une transmission communautaire, c'est là qu'on pourrait perdre le contrôle. On est en plein dans de la transmission communautaire là, présentement. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que les gens sont écœurés et tannés d'être confinés. Ça, c'est...
Merci. Merci, Nicole. Merci beaucoup. On va conclure avec notre invité, Mark Hamilton, microbiologiste. Mark Hamilton, bon, là, on a parlé du vaccin très rapidement ce matin parce que c'est préliminaire, mais c'est quand même une certaine lumière au bout d'un long tunnel. La grande question, est-ce que Santé Canada va accepter les études sur ce vaccin?
Ben, écoutez, je pense qu'on est rendu là. Il faut que ça passe la barrière de la FDA, la barrière de Santé Canada. La bonne nouvelle, c'est que Justin Trudeau a réservé 20 millions de ces doses hein, de cette mm-hmm. de Pfizer. Donc après ça, il restera à faire la production hein, de ces 20 millions de doses et espérons qu'on soit dans les premiers à être desservis. On sait que c'est pas aussi simple que ça hein, de fabriquer autant de vaccins aussi rapidement.
Ben oui, ben je disais justement le contraire. Je disais qu'on allait être qu'on serait vraiment pas là dans les premiers.
Imaginez, fait que, tu sais, Pfizer, c'est allemand, ouais. ils ont beaucoup de ramifications américaines, donc espérons qu'on puisse être dans les 5 premiers.
Ouais, voilà. Mark Hamilton, merci beaucoup. Mark Hamilton est microbiologiste. Ouais. Ben, passez une très bonne journée. C'est un bon début de semaine sous le soleil. On se retrouve demain, même heure, même poste. Bonne journée, tout le monde.